Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 4 février 1945, le monde est partagé à Yalta. En organisant la rencontre des puissances alliées en Crimée, Joseph Staline se met dans l'avantageuse position de l'hôte. Il veille à l'affectation des résidences pour chacune des 3 délégations. Il réserve aux Américains le palais de Livadia. Il attribue aux Britanniques la villa Vorontsov. Les Soviétiques sont hébergés dans la villa Korays. Tactiquement, le choix est judicieux. Séparer les délégations anglaises et américaines est nécessaire aux Soviétiques pour éviter qu'ils adoptent des positions identiques. La date de la conférence n'est pas choisie au hasard. Staline donne son aval à la rencontre des Alliés en décembre 1944, au moment où les armées hitlériennes conduites par le maréchal von Rundstedt avancent sur la Meuse. Le haut commandement anglo-américain est alors en pleine déconvenue. La contre-offensive allemande dans les Ardennes change la donne stratégique. Staline estime qu'elle affaiblira par contre-coup la résistance allemande sur la Vistule. Il sait qu'au moment de la conférence, ses armées se seront emparées de Varsovie et de toute la Pologne. Il se trouvait donc dans une position favorable pour traiter, selon sa manière, de l'ensemble du problème allemand. Franklin Roosevelt s'est embarqué à Norfolk le 23 janvier 1945, avant l'aube, sur le croiseur Quincy, pour gagner l'île de Malte, où rendez-vous est pris avec Winston Churchill. Les deux hommes doivent ensemble rejoindre Yalta par avion. Le Quincy entre dans le port de la Valette le matin du 2 février 1945. Une grande foule est massée sur le quai pour applaudir le président américain. Dressé sur le pont du croiseur Sirius, Churchill dessine avec ses bras de cordiaux gestes de bienvenue. Un télégramme de Staline, d'un humour féroce, attend Roosevelt. « J'ai dit Yalta et non Malta ». La conférence anglo-américaine est consacrée à la recherche d'une solution aux différends opposant leurs commandements militaires respectifs sur le front occidental. En définitive, le plan présenté par le général Eisenhower est adopté dans sa globalité. Tous les autres litiges entre Londres et Washington sont laissés de côté en dépit des efforts de Churchill pour obtenir un accord parfait entre les deux alliés occidentaux avant leur rencontre avec Staline. Roosevelt et Churchill volent de Malte à Sakhi, aérodrome de Yalta, dans la nuit du 2 au 3 février. Le convoi aérien comprend 20 avions C-54 et 5 Yorks britanniques. Il y a 700 personnes à transporter. La première rencontre entre les 3 grands a lieu à Livadia le 4 février. Elle met en présence Roosevelt et Staline sans Churchill. La discussion porte sur l'absence de la France. Staline considère que Charles de Gaulle manque de réalisme en demandant pour la France, qui ne s'est guère battue durant cette guerre, des droits égaux à ceux des Américains, des Soviétiques et des Anglais, qui ont porté tout le fardeau de la bataille. Roosevelt raconte en riant que devant lui, à Casablanca, De Gaulle s'est comparé à Jeanne d'Arc comme chef spirituel de la France et à Clémenceau comme chef politique. La conférence débute le 4 février
peu après 17 heures, autour d'une table ronde, comptant 15 personnes, 5 par délégation. Staline suggère que la présidence soit attribuée à Roosevelt. C'est une manière de séparer l'anglais et l'américain en conférant à celui-ci une position d'arbitre, un rôle de conciliateur qui le porte à marquer un surcroît de compréhension à l'égard des thèses soviétiques. Après une déclaration introductive de Roosevelt, la réunion est consacrée à deux exposés, sobres et précis. Le premier du général Antonov sur la situation du front oriental, le second du général Marshall, relatif à la position du front du Rhin. Le lendemain se tiennent trois importantes réunions. Les chefs d'état-major se rencontrent à midi. Un déjeuner de travail rassemble les trois ministres des Affaires étrangères. Enfin, à 16 heures, a lieu l'assemblée plénière. Roosevelt propose de la consacrer à un thème unique, le futur de l'Allemagne. Il rappelle sa proposition de partage du Reich en 5 États autonomes formulés à Téhéran. Russe, amputé d'une partie de son territoire, Hanovre et Nord-Ouest, Saxe et Leipzig, Est Darmstadt, Est Kassel et Rhin méridional, Bavière et Bade-Wurtemberg dans un troisième ensemble. Dans ce schéma, le canal de Kiel, le port de Hambourg, la Ruhr et la Saar sont placés sous le contrôle des Nations Unies. Churchill pense qu'il est raisonnable d'obtenir le sentiment de la France. Staline évoque la question de la reddition sans condition de l'Allemagne nazie. Dès ses débuts, la conférence consiste en une sorte de conversation à bâton rompu, sans ordre ni logique. Les propos se fixent durant un bon moment sur la vocation de la France à occuper une partie du territoire allemand. La France obtient une zone d'occupation en Allemagne, sa participation à l'organisme de contrôle interallié est renvoyée à plus tard. Le 6 février, la discussion est centrée sur la substance de la future Organisation des Nations Unies. Depuis la conférence de Dumbarton Oaks, le litige entre les Soviétiques et les Anglo-Américains porte sur la question du veto. Les Soviétiques réclament qu'il puisse s'appliquer à une affaire avant qu'elle ne soit portée à l'ordre du jour de l'organisation. Anglais et Américains soutiennent que le veto ne doit intervenir qu'après le débat et le vote de l'Assemblée. Ils estiment également qu'au cas où une affaire concerne directement l'une des grandes puissances, celle-ci ne doit pas détenir de droit de veto. Les échanges sont francs et directs. Les positions sont tranchées et affirmées. Le ton s'est quelque peu échauffé. Il est jugé préférable d'interrompre là la discussion en la renvoyant à plus tard dans une atmosphère plus sereine et plus propice à la concorde. Le 7 février, la séance plénière est consacrée à la question polonaise. Vyacheslav Molotov, le chef de la diplomatie soviétique, donne lecture des propositions de son gouvernement réparties en 5 points. La ligne Kherson représente la frontière orientale de la Pologne. La frontière occidentale est marquée au nord par la ville de Stettin. Elle longe la rivière Oder dans sa partie centrale et le cours de la Neisse dans sa partie méridionale. Le gouvernement polonais provisoire comporte quelques chefs démocrates des cercles de Polonais émigrés, ainsi élargi, il est reconnu par les puissances alliées. Il appellera la population polonaise aux urnes aussitôt que possible pour l'organisation d'un vote général des organes permanents d'un État polonais. Roosevelt est choqué par l'emploi du terme « émigré ». Il se déclare autrement tout à fait disposé à discuter sur la base d'un tel texte. Churchill préconise de remplacer le vocable « émigré » par l'expression « polonais provisoirement à l'étranger ». Un échange se déroule également sur le problème de la participation française à la commission de contrôle interalliée. Molotov répète alors qu'il est tout à fait possible d'accorder une zone d'occupation à la France sans pour autant admettre sa présence à l'instance de contrôle et de régulation. Churchill estime que la participation de la France est nécessaire pour assurer, je cite, « l'uniformité des zones d'occupation ». La journée du 8 février est sans doute la plus importante. La rencontre entre Roosevelt et Staline débute au milieu de l'après-midi. D'entrée, le président américain présente la situation du front dans le Pacifique. Pour lui, il convient d'envisager une intensification du bombardement des agglomérations nippones. Il est aussi capital que l'Union soviétique déclare la guerre au Japon, le plus tôt possible. Staline demande quelle compensation il peut espérer pour ce nouvel engagement militaire. Roosevelt lui répond que l'Union soviétique recevra à la fin du conflit la moitié méridionale de l'île de Sakhalin et les îles Kouriles, ainsi qu'un port situé à l'extrémité du chemin de fer sud-manchourien, si possible d'Airen, sur la péninsule du Kwantung, pour lui assurer l'accès à une mer chaude. En quelques minutes, un accord est conclu. La conférence s'achève par un dîner de gala offert par Staline. Il comporte 20 services, depuis le caviar gris jusqu'à la pâtisserie caucasienne, avec des mets les plus raffinés et les préparations les plus somptueuses. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver Emmanuel et sa chronique littéraire, un jour trois livres qu'elle a préparés et que j'aurai le plaisir de vous présenter. C'est Sylvie Vartan qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous écoutons l'un de ses premiers grands succès qui nous transporte dans la Bulgarie de son enfance avec La Maritsa, titre de 1968, issu de l'album éponyme.
reste plus rien. Pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain d'autrefois.
Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres, préparés par Emmanuel et que je vous présente maintenant, à commencer par Les fantômes de Versailles, c'est le tome 2, je vous avais présenté il y a quelques mois le premier tome. Le tome 2 est intitulé Les princes de la nuit, c'est signé Jacques Forgias aux éditions Albin Michel. La série Les fantômes de Versailles retrace l'invention de la police moderne. Dans ce deuxième tome, nous nous retrouvons en septembre 1677, sous le règne de Louis XIV, où des sorcières violées sont retrouvées crucifiées la tête en bas et des médecins étouffés pendus eux aussi la tête en bas. C'est sur une série d'abominables crimes que s'ouvrent les princes de la nuit, chargés de l'enquête par le commissaire Delamarre, bras droit du lieutenant général de police Nicolas de la Reynie, à la tête de la redoutable police de Colbert. Les inspecteurs Laruche et Torsac pénètrent l'univers secret et inquiétant des devineresses et autres guérisseuses du XVIIe siècle. Médecine et enquête scientifique face à la noirceur et la magie, avec en arrière-plan le roi soleil et sa favorite, Madame de Montespan. Les fantômes de Versailles, c'est le tome 2 intitulé Les princes de la nuit, c'est signé Jacques Forgias aux éditions Albin Michel. Rue des batailles d'Antonin Crine aux éditions Actes Sud. C'est la seconde moitié du XIXe siècle qui nous est contée dans ce roman et en exergue la violence politique prégnante à cette époque, notamment avec l'écrasement de la Commune. Enfant, Jules grandit à Versailles, puis à Tours, suivant les déplacements de son père, vétérinaire militaire. Orphelin à 15 ans, il est envoyé à Paris chez le musicien François Delsart, rue des Batailles. Puis Jules rencontre Elmina à Montmartre et part en Espagne avec elle, embarqué dans l'épopée du chemin de fer naissant. Ils reviennent avec Maurice, leur fils, né à Madrid. Quand Jules disparaît, il a 5 ans. Un an plus tard, le drame intime de Maurice et Elmina devient le sort de tout le monde. Après les sièges de Paris et l'écrasement sanglant de la Commune, des milliers de pères et de mères sont notés absents. Rue des Batailles d'Antonin Crine s'est publié aux éditions Actes Sud. Et je conclus cette chronique par le livre d'Ignacio Perrot, publié aux éditions du Cherche Midi, intitulé « Un certain Julio Iglesias ». Icône de la séduction et du succès, Julio Iglesias a atteint une renommée mondiale et inégalée. Il est considéré comme l'artiste hispanophone ayant vendu le plus d'albums, quelques 300 millions d'exemplaires à travers le monde. Pourtant, derrière le vernis du glamour, sa trajectoire est marquée par de nombreuses contradictions. Adulé par le grand public, mais souvent snobé par les élites culturelles, Iglesias a été tour à tour célébré et critiqué pour ses choix artistiques, ses prises de position politiques, ses stratégies financières et son image de Latin lover. Il s'agit donc d'une biographie particulièrement fouillée, partant de la jeunesse de l'artiste marquée par la maladie en passant par son triomphe international pour terminer par sa reconversion actuelle. Avec lui, c'est l'histoire récente de l'Espagne qui nous est retracée, du franquisme à l'Espagne démocratique, actrice de la mondialisation actuelle. Un certain Julio Iglesias d'Ignacio Perrot s'est publié aux éditions du Cherche Midi. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisé. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer comme d'ordinaire avec à nouveau Sylvie Vartan, qui a un titre de l'album Déraisonnable, c'était en 1979, Nicolas.
Non, ce n'est rien qu'une chanson qui revient quelquefois, rien qu'un sourire en souvenir d'un garçon d'autrefois. Quand mes jours sont gris, qu'il neige sur ma vie, il revient dans ma mémoire. Au lycée français, le soir il m'attendait, il souriait, Nicolas. Nicolas, 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 ma première larme ne fut que pour toi. On était sur un quai qui pleurait. Il a neigé beaucoup de pluie sur la barre, sur Paris. Et il ne sait rien de moi et de ma vie, ce que je fais, qui je suis. Il ne connaît pas l'autre marité. cela, il garde la vraie là-bas.
Thank you.